Roland Moulin, bonjour.
Bonjour Tina.
Alors merci d'être venu à Radio Tapis, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation, à nos questions surtout. Alors nous brèverons dans cette émission la vie des Congolais à l'étranger, parce qu'effectivement vous êtes un produit de l'étranger, de la diaspora on va dire, hein. Vous avez vécu pendant très longtemps à l'étranger. Est-ce que pour commencer on peut connaître votre parcours ?
D'accord, d'abord c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et de me recevoir. Alors mon parcours, je suis parti du Congo, je devais avoir 14 ans, presque 14 ans, et j'ai passé, on va dire, les dernières 20 années entre la France, les Pays-Bas et la Belgique.
Et la Guadeloupe aussi.
Un petit peu de Guadeloupe, un petit peu de voyage ailleurs dans le monde, mais principalement entre la France, les Pays-Bas et la Belgique.
Alors Roland, on va plus parler des Pays-Bas parce que tu viens fraîchement de là. Tu as même travaillé à la CPI, on va en parler, je pense que ça va intéresser nos auditeurs. Alors, la France, la Belgique, ça fait l'Europe, mais aussi, j'ai dit tout à l'heure, la Guadeloupe, parce que tu as un côté guadeloupéen. Ta maman est guadeloupéenne.
Tout à fait, oui, ma mère est guadeloupéenne. Et donc, j'ai vécu il y a très longtemps en Guadeloupe, et puis, j'y retourne de temps en temps en vacances.
Mais c'est comment on dit que c'est très beau, c'est un endroit paradisiaque, il y a beaucoup de gens qui vont en vacances, alors c'est comment
C'est comme sur les cartes postales, hein, la mer est bleue, voilà. Turquoise, les palmiers, ou les cocotiers plutôt, et puis beaucoup de fleurs, beaucoup de musique.
Beaucoup de fruits et légumes,
c'est très agréable. Mm-hmm. En fait, ça ressemble beaucoup à l'Afrique. En plus petit et
en plus exotique.
En plus exotique, ouais. En plus côté vacances, parce que c'est la côte, quoi.
Exactement. Alors, Roland, tu es parti à 14 ans, comme tu viens de le dire. Tu as eu le temps quand même de revenir. Tu revenais de temps en temps ici au Congo en vacances.
Oui, je suis revenu assez régulièrement. Je dirais en moyenne, toutes les deux ou trois ans, je revenais en vacances pendant un mois et demi. Il m'est arrivé vers à l'âge de 20 ans de revenir. On va dire une première tentative de retour.
Vers une assez longue période.
Oui, vers 21, 22 ans, je comptais revenir m'installer ici. J'ai passé 6 mois.
Ça n'a pas été
Disons que c'était dans un contexte assez particulier parce que c'était juste après la guerre du Rwanda. Mm-hmm. Et j'étais à Goma, il y avait beaucoup de réfugiés, donc, beaucoup d'insécurité.
Exactement. Voilà.
Et donc je me suis posé la question à savoir est-ce que ça valait la peine de commencer
de quitter l'Europe
construire,
pour voilà.
Voilà, mm-hmm. commencer à construire une vie dans un endroit qui était aussi instable. Et donc je suis parti et moins de 6 à 8 mois plus tard, et la guerre a commencé. Donc je crois que
raison de partir. Ouais. Une question que je pose souvent à mes invités, qu'est-ce que tu avais hâte de retrouver ? Il y a bien sûr la famille, parce qu'il y a une partie de ta famille qui est ici. Je suis sûre que tu étais content de revenir, parce que d'abord tu allais retrouver le membre de ta famille. Mais en plus de ça...
Je pense qu'au-delà de la famille, je pense que revenir ici, c'était aussi... retrouver un certain statut social, parce que vivre en Europe, on vit un peu incognito, on est personne.
On est étranger.
On est étranger.
Même si on a la nationalité, on est étranger.
Je veux dire, peu importe, oui, peu importe, à partir du moment où on se sent étranger, on se sent étranger. Revenir ici, c'était quand même revenir dans une espèce de cadre qui était assez confortable, parce qu'on sait qui on est, on appartient à une famille, à un groupe quelconque, socialement on se retrouve.
Mais il y a beaucoup de gens qui, après être partis pendant si longtemps, quand ils reviennent, ils ont l'impression de perdre leur repère, ils se retrouvent plus. En fait, c'est comme des gens qui manquent effectivement ce que tu as dit tout à l'heure, je fais une sorte d'identité. En Europe, ils sont étrangers, quand ils reviennent chez eux, ils ne se retrouvent pas non plus.
Ben voilà, on redevient...
on est étranger partout,
voilà,
en fait.
On est étranger partout. Mm-hmm. Donc ça, c'est le constat qu'on fait. Moi, quand je suis revenu en vacances ici, quand on revient en vacances, on revient pour 2 semaines, 3 semaines, même 2 mois, c'est différent. Mais quand on revient pour vivre ici, c'est vrai qu'on se sent un petit peu étranger encore. Ça veut dire que finalement,
à force d'être parti,
il y a un décalage. Mm-hmm. Il y a un décalage entre la façon de vivre, de voir la vie, de voir les choses... Et l'environnement, quoi. Donc on se retrouve encore un peu perdu. Après, je pense que c'est une question de se réadapter et on va dire retrouver un peu sa place dans la société.
Et c'est plus facile quand on a de la famille, quand on a des amis, ils vous aident à vous réintégrer.
Tout à fait. Pour les gens qui ont de la famille ici et des amis, c'est beaucoup plus facile parce que du coup, la famille et les amis sont comme un vecteur, ils vous permettent de vous réintégrer plus facilement, ils vous aident un peu à décrypter les évolutions de la société, parce qu'il y a pas mal de malentendus, il y a des choses qu'on comprend pas, comment, parce que les choses ont évolué ici, comme elles évoluent partout, mais bon, nous on n'était pas là pendant l'évolution, donc des fois on comprend pas trop, et il y a la famille qui est là pour faire un peu cette interface et traduire un peu les différents problèmes qu'on peut avoir d'incompréhension et autres. Moi, comme je dis à beaucoup de gens, j'ai le sentiment de ne jamais être parti parce que j'ai une grande famille.
Exactement. Exactement.
Et je suis toujours resté très en contact avec ma famille.
Et puis en ce moment, avec, je sais pas, on va le dire, hein, c'était peut-être pas comme ça il y a 10 ans, l'évolution de la technologie. Il y a Internet, il y a les téléphones, il y a peut-être les satellites. On sait peut-être à l'instant où ça se passe, comment ça se passe dans tel ou tel autre point du monde. Donc même en Europe, tu peux savoir ce qui se passe dans ta région du Nord-Kivu,
ouais,
par exemple.
Ça c'est une nouveauté. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant et qu'on le sent même. Bon, ça reste quand même assez mitigé. Hein. Ça veut dire que il y a Internet, il y a le téléphone, mais la distance fait que les gens ne réalisent pas. On dirait qu'on oublie qu'il y a Internet et qu'il y a le téléphone. Mm-hmm. C'est-à-dire, à moi d'avoir été habitué à rester en contact mm-hmm. avec le pays, des fois on passe des semaines sans appeler ou des mois parce qu'on est tellement habitué à ne pas avoir de moyens de communication. Parce qu'on est passé d'une époque où quand on est parti il y a 20 ans par exemple, appeler c'était quasiment impossible.
Impossible, et puis on attendait juste les retours peut-être pour les vacances. Ça fait peut-être une année ou alors envoyer une lettre par voie postale, ce qui prenait beaucoup de temps. Et là, il fallait vraiment qu'il y ait une urgence, pas juste pour le plaisir d'avoir des nouvelles des amis ou des choses comme ça.
Non, tout à fait. Donc, on n'avait pas l'habitude. C'est parce que communiquer, c'est aussi une habitude. Hein. Si mm-hmm. on a l'habitude de communiquer, d'appeler ses amis, c'est comme une éducation. Après, même avec les moyens de communication, on n'est pas toujours conscient que les choses sont si faciles.
Mm-hmm.
C'est comme aujourd'hui, par exemple, on sait, il y a Internet, il y a plein de sites congolais qui sont accessibles à travers le monde entier, mais les gens ne le savent pas forcément.
Mm-hmm.
Il y a des chaînes de télé et de radio congolaises qui sont aussi accessibles, mais les gens ne le savent pas. Et ça, on réalise quand on rentre en Europe.
Mm-hmm.
On réalise que c'est une cassure parce que les gens ils vont vous arriver et puis vous disent Outikin, Bonikin, ils vous posent une question très 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 basique sur mm-hmm. le Congo parce qu'on dirait qu'ils là-bas ils vivent dans un mythe un peu du pays, un mythe du retour.
Mais est-ce que ça veut dire aussi que c'est des gens qui ne veulent peut-être pas être au courant, c'est des gens qui ne savent pas comment ça se passe, que les choses ont un tout petit peu changé, parce qu'il y a quand même une catégorie des gens. Comme ils sont à l'étranger, mais vraiment, ils ne veulent pas couper tout à fait le pont, les liens avec leur pays d'origine. Mais genre, nous, on est maintenant de ce côté. Ce qui se passe là-bas, bon, on ne veut peut-être pas trop le savoir. Parce que c'est fou quand même qu'on arrive en Europe, qu'on pose des questions, comme tu l'as dit, basiques. Peut-être la situation politique, même sur Facebook, on le voit quand on chat avec des gens. Kinshasa, comment c'est? C'est vrai qu'il y a eu des routes, alors qu'il y a, comme tu l'as dit aussi, des sites où on peut voir comment les choses évoluent. Est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui ne veulent pas, ou qui n'ont peut-être pas le temps, ou...
Non, moi, je dirais
ça fait une vraie rupture avec leur pays.
Je pense qu'en général, le Congolais à l'étranger, il est très nostalgique du pays, il a très envie de rentrer au pays, et il souffre un peu de ce qui ne va pas au pays. Je pense que peu importe comment on vit l'expatriation, ça reste un exil.
Mm-hmm.
Et beaucoup de gens en souffrent. Maintenant, il y a ceux qui tiennent le discours comme quoi ils veulent pas savoir. Mais en général, je pense que c'est plutôt des gens qui sont un peu déçus.
Mm-hmm.
Ça veut dire qu'ils, pendant longtemps, ont été à l'écoute, ont essayé de revenir ici, d'entreprendre quelque chose ici. Et ils n'ont pas eu le sentiment que les choses évoluaient. Et donc, ils sont un peu déçus. Et donc, ils essaient de tourner la page pour dire... qu'ils doivent évoluer un peu dans les sociétés ou dans les pays dans mmh. lesquels ils sont installés. Parce que je crois que le gros problème du Congolais, c'est un peu ça, c'est que pour beaucoup de gens qui sont partis il y a une vingtaine, une trentaine d'années, les gens sont partis et sont restés vivre dans le rêve du retour. Et donc souvent, ont eu du mal à entreprendre et à construire dans les pays dans lesquels ils étaient.
Mais c'est pas tout le monde, Roland, qui vivait avec ce rêve du retour. Il y a beaucoup de gens qui se disaient bon, moi je suis à l'étranger parce que en fait ici aussi c'est on va le dire, il y a des gens qui pensent que vivre à l'étranger c'est un luxe. Malheureusement, il y a encore des Congolais, beaucoup d'Africains qui, quand ils ont de la famille en Europe, c'est une sorte de privilège. Et ces gens-là entretiennent l'illusion, même quand ça ne va pas là où ils sont. À vous mentir, qui vient de loin, ils veulent montrer que tout va bien,
de
faire des économies pendant une année avant de revenir au pays pour offrir des cadeaux, pour envoyer 200 euros qu'il a eu difficilement, mais juste pour montrer que là, tout va bien, ça va.
Oui, je pense que c'est vrai qu'il y a, comme je disais, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens qui pensent que la solution se trouve ailleurs, que le bonheur se trouve ailleurs, mmh. et donc beaucoup, mais aussi des gens qui sont partis en pensant trouver mieux ailleurs, et qui ont choisi de tourner la page sur leur pays d'origine. Maintenant, je pense que ça reste quand même des cas assez précis, parce que c'est déjà sûrement des gens qui ont vécu des situations très difficiles mmh. dans leur pays d'origine. Même ici au Congo, il y a des gens qui sont partis dans des conditions assez difficiles.
Assez dramatiques.
Voilà.
Mmh.
Donc, pour ces gens-là, bon, c'est vrai que le contexte est assez différent, mais je pense que dans tous les cas,
La plupart aimeraient revenir.
Beaucoup de gens. Je crois que c'est vraiment un problème de, c'est vraiment un problème de communication. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne savent pas trop ce qui se passe de part et d'autre. Et de la même façon, les gens qui sont ici, qui voudraient partir à l'étranger,
exactement,
souvent c'est parce qu'ils savent pas quelle est la condition et la condition de vie de leurs compatriotes.
Encore, c'est l'Eldorado, tout va bien là-bas.
Ils pensent que c'est facile.
C'est très facile.
C'est pour ça que communiquer en disant, vous savez, l'Europe, c'est pas vraiment le paradis. L'Europe, qu'on n'y vient pas de la bonne façon, on n'aura pas forcément accès à une meilleure vie parce qu'on va devoir vivre dans une certaine clandestinité.
Et justement, Roland, s'il y a des gens qui ont encore cette idée, c'est parce que les gens qui vivent là-bas ne leur disent pas la vérité. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure.
Tout à fait.
Des gens qui galéraient là-bas, mais qui n'ont pas à dire à leur famille, si à leurs amis, que ça ne va pas, que la vie est dure et pénible. Et du coup, les jeunes surtout, qui sont ici, ils veulent partir aussi, tenter leur chance, parce qu'ils espèrent que là-bas, c'est beaucoup plus facile.
Oui, tout à fait, mais c'est un peu comme si on tournait en rond, parce que c'est de la même façon, les gens qui sont partis avec un rêve en Europe, parfois c'était terminer des études, faire ceci, faire cela, faire fortune, puis revenir, et ils n'ont pas réussi à accomplir ce rêve.
Ils n'ont pu revenir.
Ils n'ont pu revenir, et ils
ont revenir les mains vides.
Ils sont un peu honteux,
C'est la honte.
Et ça, c'est pour tous les Africains, et même tous les immigrés, quand ils partent. Ils ont du mal à revenir s'ils n'ont pas accompli ce rêve-là. La famille compte sur eux. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'Africains de l'Ouest quand je vais aux Pays-Bas. Et il y en avait qui disaient, non, moi, je ne peux pas rentrer. J'ai même pas une maison, j'ai rien, je ne peux pas rentrer. Et donc, c'est vrai que de ce fait-là, les gens ont tendance à vouloir un peu redorer leur image quand ils vont en vacances, ils viennent avec un peu ces apparences pour dire que quand même ça va bien. Mais je crois que c'est pas forcément dans l'esprit d'induire les autres en erreur ou de mentir, mais c'est plus pour se réconforter eux-mêmes. Par rapport à une vie qui n'a pas vraiment réussi.
Voilà, alors là c'est très bien dit. Alors on va parler de cette catégorie des gens qui aimeraient revenir au pays, parce qu'en fait il y en a de plus en plus. Mais en fait, beaucoup des Congolais, s'ils ne sont pas rentrés à temps, c'était parce que la situation du pays était assez instable, la situation politico-sécuritaire, on va dire, économico-financière aussi. Alors, il y en a qui ont quand même pris ce risque-là de revenir, mais ce n'était pas ça. Donc, ils sont venus, peut-être qu'ils avaient un peu de sous qu'ils avaient mis de côté en Europe, et ils sont revenus pour intention d'investir. D'abord, ça n'a pas été facile, ils n'ont pas pu, ils sont rentrés. Mais maintenant, il y a de plus en plus des gens qui se disent que ça va beaucoup mieux qu'il y a peut-être quelques années.
Il y a des signes, des signes positifs. Déjà, le fait que le pays soit en paix, il reste encore des zones où la violence subsiste, notamment à l'est. Mais on sent déjà le fait de sortir d'une situation où on était dans une situation de guerre. Maintenant, on est dans un pays qui a retrouvé la paix. C'est déjà un signe positif.
Voilà.
Ensuite, on était dans une situation politique assez particulière avec la formule 1 plus 4.
1 plus 4.
Les gens ne pensaient pas que ça allait marcher.
Ça a marché. Il y a eu des élections.
Et on est sorti des élections.
Et on sent quand même qu'il y a des choses qui commencent à se faire.
Il y a des choses qui commencent à se faire.
Voilà,
on construit les routes. On parle des 5 chantiers. Les gens décriaient en disant les 5 chantiers, c'est juste un discours politique. Aujourd'hui, on voit que c'est plus qu'un discours politique.
Voilà.
On commence à voir des choses ici et là. Peut-être qu'il y a moyen de communiquer encore plus dans ce sens-là. Je pense que pendant longtemps, on a trop communiqué sur les choses négatives. On a besoin de communiquer sur les choses positives et de montrer ce qui marche dans ce pays. C'est ce qui va encourager plus de gens à revenir.
Exactement.
Parce que beaucoup de gens n'y croient pas. Il faut venir, il faut leur dire, il faut leur montrer ce qui se passe, il faut leur dire, écoutez, il y a moyen. Et plutôt que de rester à l'étranger, peut-être à critiquer ou à discourir pendant des heures.
Je pense que c'est aussi peut-être le rôle.
Il faut venir participer.
Les médias,
tout à fait.
La presse étrangère, par exemple, tout ce qu'ils montrent de l'Afrique, du Congo, c'est peut-être des orphelins du SIDA, c'est un pays où ça ne va pas, déplacement massif des populations à l'Est. Mais il faut aussi, comme tu le dis, montrer des signes positifs,
tout
que ça va, que les choses commencent à aller.
Mais ça, je pense que ça, c'est la responsabilité des Africains, parce que je pense que pendant longtemps, et trop longtemps, on a laissé les étrangers ou la presse étrangère
parler
de notre histoire. Alors, il est temps qu'on se réapproprie notre histoire et qu'on lui donne la couleur qu'on veut qu'elle ait, et que ce ne soit pas les autres qui viennent nous dire qui on est et qu'est-ce qui va. Parce que bon, eux, ils parlent des choses qui vendent chez eux. Ça intéresse pas particulièrement les gens de voir les success stories en Afrique.
Voilà.
Et qui intéresse, c'est un peu le fond de commerce, c'est un peu la
misère. Un train qui déraille, pas un train qui a une valeur.
Tout à fait.
Il manque des choses positives, ça ne vend pas.
À la télé, ça ne vend pas, voilà.
Exactement. Donc, il faut absolument montrer le côté négatif juifs de l'Afrique. Malheureusement, beaucoup d'Africains, beaucoup de Congolais font la même chose, qui sont peut-être tellement pessimistes, peut-être parce qu'ils ont vécu des situations tellement difficiles, ils n'y croient pas.
Ils n'y croient plus.
Ils disent, mais non, c'est pas possible, on attend voir, mais on est sûr qu'il ne va rien se passer, la montagne va accoucher d'une souris.
Ouais. Mais je pense que les gens
assez positif quand même.
Les gens étaient déçus. Moi, je sais qu'il y a pas très. Quand je suis revenu il y a à peu près un an, je discutais avec un oncle et je disais, mais non, moi je viens, quand je reviens après 2 ans, je vois du changement, je suis positif, mm-hmm. je suis optimiste, je vois du changement. Et il m'écoutait, mais il était partagé parce qu'il se disait, les gens, quand ils ont trop d'espoir, après ils sont blessés que leurs espoirs ne soient pas réalisés.
Mm-hmm. Alors ils sont frustrés,
voilà. Donc ils préfèrent être prudents. Regarder un
et
peu comment ça se passe
trop,
et exactement. Pas trop attendre de ce qui va se passer. Mais bon, le problème, c'est qu'en même temps, c'est un peu les mêmes personnes qu'on espère qui vont participer. Parce que ce n'est pas le travail d'une personne ou d'un groupe de personnes de mm-hmm. reconstruire un pays aussi grand que le nôtre. Et
c'est le rôle de
tout le monde, tout à fait. Il faut plus de positivisme ou de. Il faut y croire et puis faut y aller, quoi.
Je crois qu'on en a besoin, c'est très bien dit, Roland. Si vous me prenez de cours, je reçois dans ce studio Roland Mouima qui nous revient des Pays-Bas. Alors Roland, est-ce que tu penses, comme beaucoup le disent, qu'il faudrait peut-être créer des structures assez particulières pour ces Congolais qui vivent à l'étranger, qui voudraient revenir ? Ou alors, ils viennent comme tout le monde, c'est leur pays, on n'a pas besoin de s'occuper d'eux particulièrement ?
Je pense que ce serait intéressant d'avoir, je ne sais pas quelle forme cela devrait avoir, mais il serait intéressant d'avoir quand même peut-être une structure qui permettrait aux personnes qui sont parties pendant longtemps de revenir, d'avoir des repères, d'avoir des informations sur un retour éventuel, sur les démarches à faire pour investir, pour venir s'installer. Ça semble être un détail ou même être négligeable pour les personnes qui ont de la mm-hmm. famille ici, mais il y a des gens qui n'ont plus de famille ou des gens qui n'ont pas de contact avec leur famille, mais qui voudraient quand même revenir.
Mais pourtant, cela a été fait. Il y a eu un vice-ministère de la diaspora.
Il y a un aspect communication qui est très important. Faudrait mettre en place, je ne sais pas, des cellules dans les ambassades
avant que les gens n'arrivent,
pour avoir
des
informations sur différentes choses.
Heureusement, ce qu'on leur dit jusque-là, c'est partez avec des moustiquaires, un bouquin aussi, des médicaments contre les paludes.
Je crois que le plus dur ici, c'est pas forcément les moustiques.
C'est pas la chaleur.
Non, c'est la pas la chaleur, c'est la vie n'est pas facile.
C'est pas facile, hein. Surtout à Kinshasa.
La vie
coûte excessivement cher.
Oui, la vie n'est pas facile et les gens ne s'y attendent pas. Il y a des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est Kinshasa.
Mm-hmm.
Et ils reviennent comme ça en pensant qu'ils peuvent vivre comme ils vivaient ailleurs. Surtout ceux qui sont partis il y a très longtemps. Ou bien ceux qui sont nés là-bas ou qui sont partis là-bas enfants et qui ont grandi dans le rêve du retour au pays. Ils ont idéalisé le pays et puis ils arrivent ici et puis ils sont confrontés à la réalité qui n'est pas facile mm-hmm. tous les jours. Et donc ils sont déçus et souvent ils repartent un peu déçus. Ils se disent bon, c'est pas...
Alors Roland Mouima, toi tu es revenu. Après être parti pendant très longtemps, tu as finalement décidé, tu as fait une première tentative il y a longtemps, peut-être plus de 10 ans, ça n'a pas été ça, tu es reparti et là tu es revenu. C'est quoi ton sentiment aujourd'hui ?
Ben, mon sentiment, c'est qu'il était temps, il était temps pour moi de revenir. J'ai eu ce sentiment il y a à peu près un an, j'ai décidé comme ça, sur un coup de tête, de revenir. Bon, ça faisait un moment que je me préparais à revenir. Et je veux dire, c'est pas aussi facile qu'on le croit quand on vit en Europe. Beaucoup de gens vivant en Europe, ou même aux États-Unis ou ailleurs à l'étranger, ils voient un peu le pays, le Congo, l'Afrique, ils se disent bon, si on a fait un minimum dans les pays d'accueil,
mm-hmm.
si on a des diplômes, on a une expérience professionnelle, on va arriver là-bas et puis ça va être facile, on va tout de suite.
Mais c'est aussi ça le problème avec la diaspora. Je dis pas tout le monde, on peut pas généraliser, mais il y a quand même beaucoup qui pensent que comme ils ont vécu à l'étranger, ils ont un plus par rapport à ceux qui sont restés au pays. Et du coup, quand ils viennent, ils deviennent un peu ils sont trop
exigeants,
exactement. Ouais. Tout le monde veut faire de la politique, tout le monde veut avoir un poste de directeur.
Ouais.
Ils veulent pas commencer par un niveau assez bas. Ils se disent, je suis pas n'importe qui, moi je viens de Paris, moi je viens de la Hollande, moi je viens de tel coin du monde.
Moi je dirais que, après d'un point de vue professionnel, c'est pas le fait de venir de l'étranger, de Paris ou de New York, qui va justifier qu'on veuille avoir un poste à responsabilité. Si on a par contre les diplômes et l'expérience professionnelle qui le justifie, là pourquoi pas. Ça veut dire que ce sont les attentes qu'on aurait dans n'importe quel
pays. Mais pourquoi Roland, ces mêmes personnes qui viennent avec beaucoup de diplômes, qui viennent avec beaucoup de prétentions, ils sont tellement prétentieux, mais avec leur même diplôme, en Europe, ils n'occupent pas des postes assez importants. Il y en a quelques-uns, mais pas tous.
C'est pas évident, parce que dans les pays d'accueil, en fonction des pays dans lesquels on vit, en Europe ou encore ailleurs en Occident, il n'est pas donné à tout le monde, même avec des diplômes, d'accéder à des fonctions intéressantes. Ça veut dire que...
C'est assez verrouillé.
C'est assez verrouillé, voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ont fait des études il y a 15-20 ans et qui finalement n'ont même pas pu exercer dans les métiers pour lesquels ils avaient étudié et ont dû continuer de travailler dans des jobs ici et là pour permettre de continuer de vivre et ils n'ont jamais pu avoir l'expérience que leur diplôme aurait dû leur donner, du moins que l'accès à un boulot dans leur branche aurait dû leur donner. Mais c'est pas seulement leur faute, c'est aussi la faute du système. C'est-à-dire que beaucoup de pays ne sont pas si ouverts que ça. Moi, j'ai eu la chance d'aller aux Pays-Bas, qui est un pays qui est assez ouvert.
Et tu as travaillé à ces pays, on va en parler tout à l'heure, hein. C'est pas rien.
J'ai travaillé dans de grosses boîtes, mais c'est parce que aussi j'avais la chance d'être dans un pays qui est assez ouvert.
Voilà. Mais pourquoi, c'est peut-être pour ça, hein, quand ils reviennent ici, ils veulent, mais entre-temps, le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu, il y a des Congolais qui sont restés. Il y a maintenant une sorte d'élite intellectuelle.
Tout à fait.
Donc il y a eu des gens qui sont restés au pays, qui ont eu le temps d'étudier et tout. Et maintenant, c'est des cadres, c'est des gens qui s'en sortent très bien. Mais quand ces gens-là viennent, ils veulent prendre... peut-être qu'ils veulent occuper la place que ces Congolais ont. On est tous Congolais. Et c'est ça, c'est de là que vient ce conflit. Ils se disent, mais bon, nous, on n'a peut-être pas fait des grandes études en Europe, on a étudié au pays, mais on s'en sort très bien.
Tout à fait.
Et pourquoi eux, ils viennent, ils veulent prendre...
Tout à fait. Mais, moi, je pense que, il faut pas qu'il y ait une espèce de conflit, il n'y a pas de il y a faut pas
de
qu'il y ait
concurrence.
Voilà, il faut pas qu'il y ait, quand on est parti il y a très longtemps, on était tous congolais et depuis que je suis rentré, j'entends on est diaspora, donc ça fait un peu bizarre parce que je savais pas que j'étais diaspora, je pensais que j'étais congolais tout simplement. Bon, après je dirais que je pense que les gens quand ils reviennent, ils ne reviennent pas forcément pour prendre la place d'autres personnes,
mais
ils ont leurs prétentions. Mm-hmm. Maintenant, il faudrait que leurs prétentions soient justifiées par quand même un certain niveau d'expérience aussi. Il ne faut pas sous-estimer les personnes qui sont restées et penser que parce qu'on a eu la chance ou l'opportunité de travailler à l'étranger, d'être exposé à différentes méthodes de travail ou peut-être même différents environnements, ce qui est en soi quand même assez intéressant et assez recherché, mais il ne faut pas non plus sous-estimer les compétences locales. Il faut juste trouver un bon équilibre, à mon avis.
Voilà, c'est très bien. J'espère que tu n'es pas comme ça. Prétentieux. non, c'est je t'embête. Alors, Roland, je l'ai dit tout à l'heure, Roland Mouima, tu reviens de la Hollande, tu as eu à travailler à la CPI, à la Cour pénale internationale. Ouais. Alors, les gens ne s'imaginent pas comment on pourrait quitter une telle grande organisation pour revenir au pays, sur un coup de tête, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Oui,
Vous pouvez partir des déclics.
Non, le déclic.
C'est comme si on quittait, les Nations Unies à New York pour revenir au Congo, comme ça, sans être sûr de là où on va travailler.
Pour moi, c'était.
T'as pas été viré,
pour moi, c'est pas difficile. Non, je n'ai pas été viré. Pour moi, c'est pas difficile parce que pour moi, revenir au Congo était en soi, on va dire, un rêve d'enfance. Donc, j'ai toujours rêvé de revenir au Congo. Avant de travailler à la CPI, j'ai travaillé dans des compagnies, toujours aux Pays-Bas, dans les compagnies de télécom américaines, donc dans un système privé qui était très compétitif. Après, j'ai travaillé à la CPI pendant 5 ans. C'était un système différent, une organisation publique internationale très intéressante, mais au niveau compétitivité, c'était pas la même chose. Donc au bout de 2-3 ans, déjà, on se sent un peu limité parce que comme c'est une organisation publique, les choses se passent de façon un peu plus procédurière.
Voilà,
c'est une grosse machine, plus lente. Mm-hmm. Et moi qui venais du privé, d'une compagnie américaine, c'était un petit peu... J'étais frustré. Donc,
frustré, exactement. Mais tu avais quel statut là-bas? Tu étais expatrié? Ou tu avais un contrat local comme tu étais?
Non, j'avais un contrat local. Comme j'étais aux Pays-Bas, j'étais recruté aux Pays-Bas parce que je travaillais déjà aux Pays-Bas.
C'est un peu difficile.
Oui. Non, mais disons que c'était pas en soi un problème. Hein. C'était vraiment, pour moi, c'est vraiment Le travail, c'était autre chose que d'être avoir un bon salaire et avoir un statut intéressant. Au-delà de ça, c'est quand même d'avoir un accomplissement, sentir que on fait évoluer les choses.
Aussi, prestige, hein, de travailler à la Coupe à l'international, c'est pas rien. Bon, pas pour frimer, non, mais bon, parce qu'on côtoie pas les grands, on va dire, mais c'est une grande organisation.
Mais au bout de quelques années, c'est vrai que c'était très intéressant pour le CV, le prestige et autres. Mais au bout de quelques années, il y a d'autres frustrations qui deviennent plus fortes que ces aspects-là.
Voilà, et puis on est obligé de...
C'est un choix qu'on fait. Si on ne peut pas changer l'environnement autour de soi, ben c'est-à-dire qu'on n'est pas soi-même fait pour cet environnement. Donc moi, j'ai préféré continuer des études, et puis je suis parti travailler comme consultant en Belgique pendant 2 ans sur un projet de la Commission européenne, qui n'était pas non moins prestigieux, on va dire.
Oui, la Commission européenne, c'est...
Oui, donc c'était un projet qui était super intéressant aussi. Et donc, c'est pour dire que, bon, après, c'est faire des choix. C'est juste faire des choix, dire est-ce qu'on veut rester dans un certain confort, dans une certaine sécurité, ou est-ce qu'on veut prendre des risques et peut-être poursuivre un rêve.
Un rêve, une ambition.
Une ambition, tout à fait.
Mais beaucoup des gens qui me tuent en ce moment, en tout cas, je suppose, hein, quand ils entendent parler de la CPI, j'imagine qu'un truc très grand. Alors, toi, tu as eu la chance d'être là.
Ouais.
De côtoyer tout ce monde-là.
Ouais.
D'abord, pas les détenus, on va en parler, c'est intéressant pour les Congolais. Mais est-ce que c'était facile de rencontrer, par exemple, le procureur général de la CPI?
Oui, c'est quelqu'un d'assez accessible. Hein. Les premières années, surtout, de la CPI, parce que moi, j'ai eu la chance d'entrer en 2003, donc juste un an après l'établissement de la CPI à La Haye. Et donc, au début, on était une petite organisation, on était une cinquantaine de personnes. Donc forcément, on côtoyait facilement aussi bien le président Kirsch, à l'époque, Monsieur Moreno, le procureur, ou Monsieur Catala, qui était le greffier de l'époque. Donc c'était assez petit. Au bout de 2-3 ans,
ça a grandi,
on est passé à plusieurs centaines de personnes.
Mais sinon, l'ambiance entre vous, que ce soit les locaux, les expatriés, c'était...
On va dire que cette notion de local ou de locaux.
Il n'y a pas tellement ça comme dans l'émission,
voilà,
comme ici par exemple.
C'est pas aussi fort que dans l'émission.
Voilà, dans l'émission, on sent.
Je suis venu à Kinshasa 2 reprises pour le compte de la CPI. Et ça m'avait marqué parce que j'ai senti qu'il y avait quand même cette espèce de cette distinction entre local et expatrié était très forte. Là-bas, c'est pas si fort que ça. Je pense qu'à partir du moment où on est dans les sièges de ces grandes organisations, surtout quand on est en Europe, il n'y a pas une grosse distinction à ce niveau-là. Donc,
c'est tant mieux.
C'est pas très lourd.
Alors la grande question, tu as eu l'occasion de rencontrer les détenus de la CPI, dont Jean-Pierre Bemba, peut-être que tu étais déjà parti quand il est arrivé. Charles Taylor. Il n'était pas là?
Si, il était là. Bon, je l'ai vu de loin. Hein. Je n'ai pas rencontré en personne. J'ai vu de loin. Je pense que quand on travaille dans ce genre d'organisation, on n'a pas forcément conscience du rôle de ces personnes-là dans le monde extérieur.
Ah, d'accord.
Ça veut dire
du privilège que vous avez été de les côtoyer alors que tous les médias du monde entier en parlent.
Oui, tout à fait. C'est vrai, on ne réalise pas ça. Je veux dire, c'est souvent quand, un peu plus tard, on regardait la télé, BBC ou CNN, et qu'on voyait une audience, et on dit, tiens, on voit les collègues, on voit un tel, ça fait sourire. Parce qu'on dit, tiens, c'est marrant, j'étais là tout à l'heure, et puis maintenant, je vois la télé. Mais sur le coup, on ne pense pas à ça.
Mais toi, en tant que Congolais, quand tu as appris, par exemple, qu'il y a des Congolais qui ont été transférés à la CPI, notamment Thomas Lubanga et compagnie, Ngujolo,
un peu plus tard,
et Jean-Pierre Bemba par exemple, est-ce que, même si tu le voulais, est-ce que tu peux aller les rencontrer facilement, faire peut-être des photos, les saluer, lui dire, bon, je suis Congolais aussi? Non, tu n'as pas le droit de les rencontrer comme ça.
Non, on n'a pas le droit.
Même pendant l'audience.
Non. Et il faudrait, je pense, faire partie des services qui sont directement impliqués dans la gestion de ces personnes-là, c'est-à-dire les services qui les accompagnent ici et là, ou bien les personnes qui sont occupées de leur défense ou autres. Non, c'est pas si c'est possible.
Donc tu as beau travailler à ces pays, t'as pas eu le temps de rencontrer ces Congolais qui sont détenus là-bas.
Non. Oh. Bon, j'ai pas cherché à le faire non plus.
Ah, c'est dommage.
Je n'ai pas cherché à le faire.
Tu n'as pas cherché que c'était pas.
J'imagine
un Congolais qui viendrait d'ici, voudrait absolument à tout prix, s'il est à La Haye, moi j'étais à La Haye, à Den Haag, En tout cas, je voulais absolument rencontrer des gens, mais j'ai pas pu.
Oui, ça c'est dans un esprit un peu plus c'est la journaliste qui a envie d'aller.
Pas forcément.
Je pense pas que. Je veux dire, allez, ce sont des personnes qui sont venues là dans un certain contexte.
Contexte, voilà. Et puis bon, c'est pas des stars, c'est pas.
C'est pas des stars. Elles sont là pour un procès. Mm-hmm. Elles sont présumées innocentes. Et donc, je veux dire, bon, c'est assez particulier parce que bon, en même temps, faut savoir que dans ces organisations-là, quand on est congolais, ben, les gens se méfient un peu, ils savent pas trop si vous avez peut-être des partis pris, politiques. Exactement. Et autres. Donc, bon, je veux dire, on est là pour faire un certain travail, hein, on le fait, et puis voilà, quoi, on se pose pas trop de questions. Après, s'il faut commencer à chercher à rencontrer, avoir une interview de Thomas Lubanga entre les quatre yeux.
Une photo, et puis bon, c'est pas bien de se promener avec une photo.
Dédicacée.
De Thomas Lubanga, c'est pas. Je vois pas le privilège. Roland Mouima, de la CPI, l'Union Européenne, tu es revenu au Congo, et là tu travailles pour Pygma, c'est une agence de publicité. Tu te retrouves, ça va?
Oui, tout à fait.
Je sais pas encore exactement, ça n'a pas encore pris forme.
Bon, ça prend forme tous les jours, hein. Donc je gère une nouvelle agence de publicité qui s'appelle Impact, qui fait partie du groupe Pygma Communication. Ça commence à être super intéressant. Mm-hmm. Les débuts étaient un petit peu difficiles, mais je pense que c'est plus tenu à l'environnement, c'est-à-dire que l'environnement des affaires ici n'est pas très très évident. C'est beaucoup de challenges, c'est très excitant et on rencontre des gens très intéressants.
Et pour terminer rapidement, qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui sont encore là-bas, qui hésitent ?
Je leur dirais.
Quoique les contextes sont un peu différents, chacun revient dans.
Chacun revient dans son propre
dans
contexte.
Dans son propre contexte, voilà.
Je leur dirais de se renseigner. Les secteurs dans lesquels ils souhaiteraient évoluer, travailler ou investir ou autre, comment ces secteurs-là fonctionnent, connaître les réalités. Mm-hmm. Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est quand même de se préparer. Le retour, ça se prépare.
Voilà.
Donc, quand on a revenir sur un coup de tête, c'est pas conseillé à tout le monde, parce que ça peut être très décevant. Alors que ça vaut la peine. Moi, je veux dire, je ne regrette pas d'être venu. Et je pense que la plupart des gens, si jamais ils se préparent bien, ils ne regretteront pas d'être venus parce qu'on a un grand pays, il y a énormément d'opportunités. Et il faut les transformer, il faut en faire quelque chose. Donc, bienvenue.